Histoire de quartier. Les quartiers sont les théâtres d'histoires individuelles et collectives. Et les communautés qui y vivent sont marquées par des anecdotes, des personnes, des lieux et des institutions qui en font partie. Les autrices et les auteurs sont les témoins de ces quartiers et racontent leurs histoires. Je m'appelle Sarah Osama, je suis bibliothécaire et je vous invite à rencontrer des autrices, des auteurs, mais aussi mes collègues dans les bibliothèques et des usagères et usagers qui aiment leur bibliothèque de quartier. Dans cet épisode, je tente de suivre l'imaginaire foisonnant des deux auteurs du recueil Verdun-Linde publié aux éditions de Ta Mère. Baron Marc-André Lévesque et Timothée William Lapointe sont deux poètes et amis de longue date.
Assis là, déboulé sur nous-mêmes, a commencé à naître dans nos esprits une nouvelle nécessité. Celle de créer un monde imaginaire, plaqué sur le nôtre, de magnifier par l'improbable un monde qu'on avait déjà fait trop entrer. Et c'est ce monde que nous avons créé cet été-là, avec la marde plein l'arrière-cour, qu'on te propose de visiter aujourd'hui.
Baron Marc-André Lévesque, bonjour.
Bonjour.
Là, je dis ton nom au complet, Oui. Mais plus tard, je vais t'appeler Baron seulement, parce que sinon c'est un petit peu trop long. Timothée William, bonjour.
Bonjour.
Puis moi, je vais t'appeler Timothée William.
Moi, je l'appelle Timothée et William Lapointe. Juste Timothée et William, parce qu'une fois au karaoké, il avait écrit son nom, Timothée William. Puis là, le DJ avait appelé les deux versions. Il dit « Timothée et William, en avant pour votre chanson. » Timothée est allé, là, Timothée prend le micro, il attend. Puis là, le DJ, il part pas la tête, il dit « Il est où l'autre? » Il est comme « C'est moi! » Non, mais l'autre, tu vas dire « Et où l'autre? C'est qui l'autre? Il est où l'autre? Il est où ton ami, là, vite? Dis à ton ami qu'il s'en vienne. Non, c'est moi, Timothée William. Hein? Timothée William. Ah! OK! » Là, il part la toune. Ça, il y a un petit battement de 2-3 minutes. De silence au karaoké, vraiment bizarre. C'est drôle. De ça, tu t'es lancé dans... Ça devait être Tom Jones.
Ouais, chose en voilà.
Bien, merci d'être là aujourd'hui. Vous êtes tous les deux poètes.
Oui.
Puis on vous accueille pour Verdun-Linde, que vous avez publié aux éditions de Ta Mère, qui parle de Verdun. On est ici dans le parc qui est juste en face de la bibliothèque Jacqueline de Repentigny, qui est donc la bibliothèque de Verdun, où on va entendre les autos passer de temps en temps. Verdun-Linde, c'est un livre qui est paru en 2020. Puis vous l'avez écrit donc à quatre mains.
Oui. Ouais.
Pourquoi vous avez eu envie d'écrire ça?
C'était l'idée à Tim, initialement, je crois.
Oui, mais c'est qu'on avait eu une demande de faire une performance pour la maison d'édition de mon premier recueil. On nous avait demandé la tournure et on nous avait demandé une performance de 20 minutes.
Pour cette 20 minutes de performance-là, on a écrit chacun notre barre des poèmes sur Verdun-Linde. On a décidé que c'était comme un Verdun imaginaire parallèle. Oh, il y a des choses qui se passent, on invente des histoires. Tim était dans sa passe un peu Dr. Seuss, là, de genre de conte vraiment imaginaire avec une façon de raconter qui est très fantaisiste aussi. Là. Fait que Timothée était vraiment dans cette passe-là, me semble, dans mon souvenir.
T'es encore dans ce passe-là.
Dr. Seuss, ça finit jamais. Je sais pas, à un moment donné, t'as dit, c'est-tu toi qui as dit qu'il faudrait qu'on ait une map?
Oui, parce que j'étais en train de lire Le Seigneur des Anneaux. J'étais comme, ça serait cool qu'on ait une carte comme dans Le Seigneur des Anneaux.
La map, check ça, ils ont mis une map.
Ah, c'est cool, la map dans Le Seigneur des Anneaux. Là.
Oui, tu vois tout, le volcan, il est là, les montagnes, où les villages et tout ça. Là, j'ai dit, ben oui, OK. Je trouvais ça drôle d'avoir un dessin qui est un peu amateur. Je me semble que j'avais colorié un peu pour le spectacle. Ouais. Il me semble que je l'ai encore chez nous. Puis on a mis ça en arrière de nous autres pour la lecture. Mais
c'était essentiellement juste pour pouvoir pointer les affaires quand on changeait
quand
le poème.
On lisait, on changeait le poème. Ça, là, il se passe.
Ouais, ça se passe là.
Puis là, Gunther, là, des fois, il va dans l'eau à peu près jusque-là. Il y a de l'eau aux genoux rendu ici dans le fleuve. Puis tu sais, on quasiment ferait de pèlerin là, comme affaire.
Est-ce qu'en fait, il y a des poèmes que vous avez écrits ensemble ou c'est vraiment séparé puis vous avez fait un recueil avec ça?
Habituellement, c'est ça. Il y a un poème qu'on écrit vraiment à quatre mains en temps réel dans un Google Doc. C'était l'antiquaire...
L'antiquaire folkloriste. Ouais.
Celui-là, je me souviens là, que le baron, il voulait me montrer comment ça marchait Google Docs. Fait que là, il me dit, ah, regarde, on peut faire ça. Puis là,
tu le vois, moi j'écris, là, regarde dans ton écran, regarde ça, j'écris. Puis là, je fais
là, dans... là, c'est parti comme ça, un après-midi de temps, on a écrit le poème.
On se lançait des idées. Ah, oh, on pourrait avoir ça, on pourrait avoir ça, on pourrait avoir ça. Puis là, chacun se faisait une liste d'épiceries, de poèmes qu'on veut écrire. Puis là, ben, on allait chacun de notre bord, puis on les écrivait. Puis on les mettait ensemble dans le document. Mais une fois que toute la suite était ensemble, les deux ont gossé dedans quand même. Moi, je le vois qui a fait quoi. Il y a des poèmes que je vois que c'est Tim, puis il y a des poèmes... Tu sais, les longs poèmes très narratifs, c'est Tim. Moi, j'aurais pas fait ça. Je les aime, je les adore. Le Parc mobile, c'est mon poème préféré dans tout le livre, mais c'est pas quelque chose que moi, je fais ou j'aurais fait, mettons. Ça part de un, puis l'autre vient niaiser dedans, puis là, l'initial qui l'a écrit dit « Hey, c'est moi qui l'ai écrit, celle-là, change pas mon
vote! » Il y a le droit de veto.
Le droit de veto, c'est tu changes quelque chose.
Comme dans le processus de création des Beatles, moi, c'était ma référence. De, bon, on va faire comme les Beatles, c'est toi qui as écrit le premier geste, t'as le droit de veto sur ce que l'autre vient modifier, même chose de mon côté. Comme ça, c'était la règle d'or.
Tout ce que l'autre change,
tu peux venir jouer dedans autant que tu voulais, mais si l'autre aimait pas ça, il pouvait le remettre comme il voulait.
Tu rewind dans la première version.
C'est ça.
Après Verdunland, mais je m'ennuyais d'écrire sur Google Doc avec Tim, puis que les mots apparaissent devant mes yeux, puis je dis wow, ça c'est Timothée qui l'écrit, là ça c'est moi qui l'écris.
Mais le charme de ce projet-là, c'est qu'on avait tellement de liberté, c'était littéralement tout pouvait rentrer dans Verdunland. C'est rare que tu te mets des paramètres comme ça à plusieurs en plus, où presque tout est possible. Si tu veux, c'est plus ou moins possible, il y a moyen d'aller changer les paramètres pour que ça rentre.
Puis dans toutes ces choses-là, un peu étranges, un peu fantaisistes, ben il y a quelque chose qui s'ancre dans le vrai Verdun, mais aussi, c'est comme, à partir de ces petites affaires-là, on avait des idées. Comme par exemple, en me promenant à Verdun les premières fois que je suis arrivé, quand je suis arrivé à Montréal il y a 10 ans, je regardais partout, je disais, il fait toujours soleil ici, c'est très rare qu'il pleut à Verdun. Deuxièmement, il y a donc bien plein de dépanneurs partout. Mais non, c'est ça. Chacun de ces poèmes-là tient son origine la plupart du temps dans quelque chose de précis qu'on aime de Verdun. Puis qu'on s'est dit, ça serait drôle si ici, il y avait un géant. Ah ouais, bonne idée. Puis là, un de nous deux allait l'écrire, puis l'autre allait écrire d'autres choses. Puis là, on se rejoignait une semaine après. Puis, t'as-tu écrit celle-là? Tu sais, Verdunland, c'est un personnage, puis quand on vient à Verdun, même c'est Verdun, en tant que tel, est un monde à part de Montréal, tu sais. Mais aussi, c'est proche, tu sais, on est vraiment proche du centre-ville, on est proche de tout, on est proche, surtout proche du fleuve. Moi, je capotais à Verdun d'être proche du fleuve à ce point-là. Mm. Mais si tu sors pas de Verdun, t'as tout, t'es correct, tu te sens vraiment comme dans une autre ville complètement, tu sais. Puis moi, c'est ça que j'aime.
T'as mentionné tantôt le fleuve.
Oui.
Que c'est un incontournable de Verdun, puis c'est vrai. Mais dans votre recueil, le fleuve, tu sais, je me demandais, est-ce que vous le considériez un peu comme un genre d'obstacle ou quelque chose qui isole encore plus le monde? Parce que Gunther, votre géant...
Il n'arrive pas à le
traverser,
mais de façon générale, moi, j'aime beaucoup le fleuve Saint-Laurent. J'aimais beaucoup explorer les petites îles proche. Il y a l'île Roc qui est vraiment assez quand même grande, mais il y a aussi une île qui est à peu près grande comme le cercle qu'on forme nous autres en ce moment. Puis j'aimais ça au bout d'explorer ça. Fait que quand on a écrit Verdunland, j'ai décidé qu'on allait avoir des poèmes dans le fleuve. Fait que t'as l'île Roc qui est là, t'as le fleuve qui est un obstacle, pour Gunther.
Cet obstacle-là est en quelque sorte célébré dans l'avant-dernier poème sur la Lune, où tous les gens de Verdunland, ils s'en vont sur le bord du fleuve pour regarder la Lune. Puis là, c'est comme une occasion de célébrer leur appartenance à Verdunland, puis à cette espèce de... leur étoile, qui est de leur étoile. Puis,
puis on voit tellement bien le ciel quand on est sur le bord de l'eau, là.
Nancy Legresse, dans Verdunland, elle allait à la bibliothèque pour faire des recherches pour comment faire repousser des oreilles aux gens.
Où elle a trouvé son livre, L'apprenti botaniste.
Oui, qui était un projet de roman que j'ai jamais écrit, finalement.
Est-ce que vous, ça faisait partie de vos habitudes aussi de venir ici?
Moi, j'étais déjà allé à la bibliothèque Marie-Huguet auparavant. Celle-là, je veux dire, tu sais, on entre dans un endroit et on dit, ça, c'était ici. Puis je trouve ça fascinant. C'est vraiment une bibliothèque magnifique. Beaucoup de lumière, tu sais, c'est vraiment chouette. Mais la bibliothèque occupe une place dans nos vies quand même, tu sais, il faut le dire. Moi, je suis un papa, là, j'ai une petite fille de bientôt 3 ans au mois de juillet, puis elle capote sur les bibliothèques, elle aime ça, découvrir des nouvelles bibliothèques. Là, je me dis, ah, celle-là, elle va l'aimer. Fait qu'on va venir, je vais me prendre une journée, on va aller sur le bord de l'eau, on va aller à la bibliothèque après. Puis, non, c'est vraiment des beaux endroits, puis c'est précieux dans une ville, les bibliothèques. Là. C'est, ouais. C'est souvent, mais c'est un des cœurs d'un quartier, ça, puis le dépanneur.
Vous a demandé de nous faire des suggestions de lecture, de choses incontournables pour vous. Puis vous nous avez suggéré 2 listes séparément, mais celui qui revenait chez...
Pas consulté en plus.
Non. C'est ça, c'est, j'en suis certaine, puis c'est ce que je trouvais assez rigolo. Le livre qui revenait était Sudbury de Patrice Desbiens. Pourquoi?
Tu veux y aller où tu veux
y aller? Vas-y, vas-y.
Ce que moi j'aime beaucoup de Desbiens, puis Sudbury, c'est peut-être son plus gros recueil, donc t'en as plus pour ton argent, je peux te
dire. Ben, c'est 3 recueils en un. C'est la version que moi j'ai, celle-là aussi, c'est...
C'est ça, puis c'est Baron qui l'avait. Après, je me suis acheté ma propre copie, mais ce que j'aime beaucoup de la poésie de Desbiens, c'est que c'est très décomplexé. La versification est fortement influencée par la poésie américaine. Et justement, il y a un des recueils qui est dédié à Richard Brottigan, qui est un autre de mes choix qui m'a beaucoup influencé. Donc, c'est de la poésie du quotidien. Souvent drôle, il y a toujours de la place pour l'humour, mais aussi, c'est à la fois mélancolique et drôle, ce qui est vraiment la tonalité que j'affectionne et que on a travaillé là, dans Verdun-Land, je pense. Là.
Oui.
Il y a moins de merveilleux, par exemple, chez Desbiens qu'on
a
peut-être
plus. Non, mais je le cherche. Je suis en train de le fouiller. Puis des fois, je le vois, mais c'est un merveilleux qui est quand même pas loin de Verdelais. J'essaie de retrouver le poème. Mais moi, à la base, j'aime Patrice Desbiens parce que on me l'avait conseillé en me disant « Ah, ça, c'est une poésie qui est le fun, qui est accessible. » Puis là, bien, en le lisant, j'ai vraiment capoté. Je me suis dit « Wow, c'est comme un lyrisme vraiment ancré dans l'ordinaire, mm-hmm. puis le quotidien, puis la bière, puis les toasts, puis la pinte de lait, puis tu sais, toute cette imagerie-là, puis les rues. » Puis je me dis « C'est Sudbury, tu sais, le gars, il est né à Timmins, j'ai vécu à Sudbury. » Puis c'est quelqu'un que je trouve vraiment attachant, puis sa poésie est vraiment attachante, puis c'est vraiment quelque chose dans quoi je me suis un peu reconnu à l'époque. Puis je me rends compte là que beaucoup de jeunes poètes de notre génération, on a lu Desbiens à un certain âge, tu sais, on lit Desbiens à 22, 23 ans, puis ça nous marque, puis on dit « Ah, wow, mais cette poésie-là, je pourrais écrire des poèmes, puis ça serait des poèmes, tu sais. » Avant de lire Desbiens, je me disais pas souvent « Ce que j'écris, c'est de la poésie, puis ça peut être prise au sérieux, publiée ou peu importe. » T'sais, je me disais ben, « Ce que j'écris, c'est pas vraiment de la poésie sérieuse. » Alors que Desbiens, ça en est. Donc, c'est ça. C'est la journée est un fourneau graisseux. Nous sommes dans le fourneau. Nous sommes des cuisses de poulet dans la sauce hermétique et la cuisinière nous a complètement oubliés. Il y a quelque chose de plus grand que nature. T'sais, il fait tellement chaud qu'on est des cuisses de poulet dans un fourneau puis on nous a oubliés à l'écoute de son soap à la télévision. T'sais. Il y a quelque chose de Verdun-Land là-dedans. Mm-hmm. T'sais, il y a quelque chose qui m'a inspiré pour tous mes recueils, mais particulièrement dans Verdun-Land, je trouve que Verdun est un endroit très Patrice Desbiens.
Vous nous avez aussi suggéré Maya Angelou.
Oui. C'est une grande poète importante, mais aussi qui... comment dire, c'est une poésie qui a un rapport à l'histoire, avec l'histoire de la ségrégation puis du racisme, mais aussi des choses qu'elle a vécues intimement. Et elle fait rejoindre tout ça dans une poésie qui est lyrique, qui est accessible, qui est drôle parfois, qui est vraiment humaine. Que... Moi, ça m'a ouvert les yeux à une autre forme de poésie ou quelque chose d'autre que la poésie peut être. Puis elle parle dans un de ses poèmes, « Come and be my baby », tu sais, « Some prophets say the world is gonna end tomorrow, but others say we've got a week or two ». Fait que c'est l'attente de la fin du monde. Puis on est toujours dans une époque d'angoisse, la fin du monde, puis des coups d'anxiété. Tu sais, elle, je sais pas quelle sorte de fin du monde elle avait en tête lorsqu'elle écrit ça, mais elle dit « Tu te demandes qu'est-ce que tu vas faire, viens-t'en, puis ça, mon bébé. Come and be my baby », genre, soyons des amoureux.
C'est pas la guerre froide,
hein? C'est sûrement la guerre froide, j'imagine. Mais moi, aujourd'hui, je le lis, puis je pense aux catastrophes climatiques, je pense à toutes sortes de choses. Donc, ça revient rejoindre plein de choses. Et bien, elle fait le lien entre ça puis l'amour. Elle dit, tant qu'à être ici, on ne sait pas pour combien de temps on en a, bien, tu sais, viens-t'en être moi, come and be my baby. C'est plutôt un baby amoureux, tu sais, comme on appelle un amoureux des fois en anglais. Mais moi, je le lis à l'époque où je le lis, je sais pas, je pense que ma blonde est enceinte, puis je pense à mon bébé qui s'en vient. Là, le monde va finir. Viens-t'en, viens être mon bébé. Là, je trouvais ça drôle. Fait que c'est vraiment c'est le poème qui m'a marqué le plus chez elle.
Quelqu'un d'un peu plus proche de nous,
oui.
Je pense que ça venait de toi aussi,
Baron. Oui, Elkana.
Moi, figuier sous la neige d'Elkana Talbi.
Oui. Oui, ça, c'est un de mes recueils préférés. C'est quelqu'un, c'est une femme qui fait beaucoup de scènes, c'est une comédienne. C'est quelqu'un que j'admire depuis longtemps, que j'avais vu lire souvent et qui m'a vraiment marqué par sa présence, par sa façon, son rythme, mais d'amener ça dans un recueil qui est très autobiographique, très proche du récit de soi, mais que les recueils, les poèmes sont super punchés, sont vraiment le fun. Celui-là, je l'enseigne à l'école souvent. Moi, je suis prof au cégep Dawson. Donc, dans les cours de littérature, je fais lire ce recueil-là. Et les jeunes se reconnaissent, même si c'est pas partout leur récit. Des fois, ça l'est un petit peu. Mais le rapport des personnes issues de l'immigration, deuxième génération, avec leurs parents, avec la culture d'origine par rapport au Québec et tout ça... les jeunes à qui j'enseigne, ça les rejoint complètement. Moi, non. T'sais, au sens où moi, j'ai grandi au Québec. Mes parents sont bon, de l'Ontario, Nouveau-Brunswick, mais c'est pas super loin. Là. Mais c'est un recueil que j'ai trouvé très drôle, très pas juste drôle non plus, très vivant, très humain. Et c'est ce qui m'a marqué.
Timothée, toi, c'est Chris Ware,
ouais,
que tu nous as suggéré. Ouais. Pourquoi?
C'est vraiment encore pour le côté... tu prends une BD Chris Ware, la première chose que tu remarques, c'est waouh, les couleurs, c'est tellement beau, c'est tellement... c'est des lignes claires comme chez les bandes dessinées belges, comme chez Tintin et tout ça. Puis c'est du bonbon pour les yeux, mais dès que tu commences à lire ce truc-là, non seulement c'est de complexité inouïe dans le découpage, mais... C'est tellement déprimant, là. C'est vraiment d'une mélancolie là, profonde. Puis ça revient encore un peu à ce que je disais tantôt par rapport à Debian. Il y a aussi ce côté-là, c'est d'une facilité d'approche, c'est très pop, puis, mais dans les thèmes puis les sujets, c'est souvent des trucs qui sont vraiment plus, disons, rugueux, là. Donc moi, c'est ça. Lire... Jimmy Corrigan, The Smartest Kid on Earth, ça s'approche de la dépression, mais encore là, c'est un grand plaisir de lecture, puis c'est une cathédrale de narrativité, puis c'est ça. Ce que j'aime beaucoup, c'est souvent un peu la même texture, c'est-à-dire que c'est simple en surface, mais si tu analyses le truc, là, comme chez Hitchcock ou chez Chaplin, les Beatles, des trucs comme ça.
Ouais, Maya Angelou, les choses c'est qu'on ça, lit, c'est que c'est accessible du premier abord. Puis une fois que tu as mis la main dans l'engrenage de « Ah, c'est pop, c'est bien écrit, c'est le fun à lire », tu mets la main dans l'engrenage comme Chaplin dans les temps modernes, puis tu commences à voir toute la complexité puis la mélancolie qu'il y a dans mm-hmm. cette joie de le petit bonbon de surface, tu sais.
Mais je trouve que c'est vraiment l'exemple le plus éloquent de ça. Là,
le
bonbon mélancolique. Là,
le bonbon mélancolique. Ouais. C'est Verdun-Lan.
Il y a ça dans la pluie à Verdun-Lan.
Oui.
Ou les flaques d'eau, sont comme des bonbons dans les yeux. Ouais. Mais toute la poème est très mélancolique.
Oui, c'est vrai.
Et ça marche la fine ligne là, entre l'émerveillement par rapport à la pluie. Puis là, il y a un revirement. Là, il fait « Donc ben beau dehors, je vais sortir. »
Ça serait plate de manquer ça.
C'est ça, ça serait plate de pas aller profiter de la pluie. T'sais. On ne dit jamais ça, mais c'est un peu ça.
Cette nouvelle attitude avait tout pour enrager Nancy, qui changeait le trottoir en marmelade de la station jusqu'à la bibliothèque des livres fantastiques à l'angle de Ballantyne et Brown pour trouver réponse à son problème.
Plusieurs heures de recherche s'en suivirent et ensevelies sous les livres d'exorcisme, bestiaires étranges, almanachs et livres de potions.
Jusqu'à ce qu'elle tombe sur un petit livre relié sur le jardinage du nom de l'apprenti botaniste, dans lequel on expliquait comment faire pousser en quelques semaines à peine d'opérationnelles oreilles.
Le livre sous le manteau, elle quitta la bibliothèque sans passer par le comptoir, car que dirait-on d'une ogresse qui emprunte des livres?
« On y va maintenant?
Oui.
Ah, OK. Alors, je m'appelle Marie. Je suis aide bibliothécaire ici à la bibliothèque Jacqueline de Repentigny depuis 2007. Donc, ça fait déjà 16 ans. Je suis dans le début de ma 17e année.
Moi, c'est Philippe Gravel. Je suis bibliothécaire ici à la bibliothèque. Ça va faire 5 ans en septembre.
OK. Et Marie, vous dites que vous êtes aide bibliothécaire. Qu'est-ce que vous faites exactement à la bibliothèque?
C'est en fait d'accueillir les clients, de faire tout ce qui est prêt, retour, classement, aide aux clients. C'est un paquet de choses, un paquet de trucs.
Oui.
Ouais.
Et Philippe?
C'est un paquet de choses aussi. Je dirais les grosses tâches, c'est sûr que moi, je suis un bibliothécaire de référence, donc c'est un service à la clientèle, aider les gens dans leurs recherches, beaucoup d'aide informatique aussi. Puis une autre grosse partie de ma tâche, c'est faire de la programmation d'activités à la bibliothèque. C'est un gros 75% du travail, là, d'être en recherche toujours d'activités, contacter des contractuels, les mettre au programme puis les réaliser. Ensuite, c'est de tisser des liens avec les organismes de l'arrondissement pour faire des collaborations. Puis de là, émergent beaucoup aussi là, de services puis d'activités.
Verdun, c'est très... c'est le fleuve, en fait, est partout dans Verdun.
Ouais.
Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait ressentir ça dans votre bibliothèque ici? Est-ce que le fleuve résonne quelque part ou pas du tout?
C'est une bonne question. J'aurais envie de dire que c'est dans l'énergie des gens, peut-être.
Ouais.
Parce que les gens profitent beaucoup du fleuve. Puis...
Tous les gens d'ici, oui.
Ouais. Ouais. Puis nous, on est juste... Il y a des endroits à Verdun où on est plus éloigné. À Verdun, on n'est jamais très éloigné du fleuve, mais il y a des endroits où on ne l'est plus. Mais nous, on est à un coin de rue.
On descend la rue ici, puis on est au fleuve. Donc,
Donc on voit souvent des groupes de vélos qui vont arriver. On sait qu'ils arrivent du bord de l'eau. Mais pour nous, je dirais concrètement, l'extension qu'on a fait peut-être, c'est qu'il y en a une particularité à Verdun. On a une bibliothèque de plage à l'été.
C'est vrai.
En fait, c'est pas juste qu'on a une bibliothèque de plage, mais on a une plage.
C'est vrai.
Ouais. Quand le projet de la plage est né presque en même temps, je vous dirais, un projet de bibliothèque de plage. Je sais que notre bibliothécaire responsable ici, Susanna, avait ça comme projet depuis des années, bien avant mon arrivée ici. Mais finalement, la plage s'est concrétisée. Puis là, ça va faire la deuxième année... C'était un projet pilote la première année, puis il n'était pas question que le projet ne revienne pas cet été, donc ça va revenir bonifier cet été. Puis, pour revenir à la question là, de notre contact au fleuve, donc là, on a, je vous dirais concrètement, c'est peut-être en ce moment le lien le plus précis qu'on a avec la vie au bord de l'eau.
Puis en plus, maintenant, on peut se baigner dans le fleuve, on fait des quais. Il y a plein d'activités sur le fleuve maintenant. C'est ça, je dis.
C'est une belle vie de quartier.
C'était vraiment une belle vie de quartier. Puis c'est vraiment un endroit incroyable pour habiter à Montréal. Mmh. On se sent pas comme dans la grande ville ici. J'ai toujours eu l'impression, même depuis que je suis arrivée, de ne pas être en ville. J'avais toujours l'impression d'être dans un village. C'est fou, hein? Mais à côté de la ville. J'ai encore cette impression-là aujourd'hui.
Quel genre de clientèle vous desservez? Qui sont vos usagers et vos usagères?
Ah, mon Dieu, il y a de tout. Oui. Moi, je dirais qu'il y a de tout. La bibliothèque jeunesse est très fréquentée.
Oui.
Donc, ça part de tout petit, bébé en poussette, aller jusqu'à 80 avancés, là, 80 et plus.
Oui, je dirais qu'on a le panorama.
Oui, et c'est une bibliothèque très fréquentée.
Oui.
Ouais.
Mais les familles, c'est un gros morceau.
Oui.
Je dirais les aînés aussi, peut-être au niveau de la lecture.
Oui.
Je ne saurais pas dire si en effet là, le livre numérique prend un espace si important, mais au niveau de la lecture, les aînés sont au livre, viennent chercher beaucoup de romans. On est une bibliothèque qui prête beaucoup de romans.
Est-ce qu'ils viennent s'installer à la bibliothèque, donc l'incarnation du troisième lieu, ou est-ce qu'ils viennent chercher leur roman puis ils partent?
Moi, je dirais que la dynamique a changé. C'était vrai avant. Il y a eu la pandémie qui on dirait qu'il y a des nouveaux comportements qui se sont installés.
Ouais.
Mais depuis un an, il y a un retour certainement vers la bibliothèque. Ouais. Aussi, on fait beaucoup d'activités de type collaboratif, là. C'est-à-dire qu'on va installer dans le hall. On a une bibliothécaire ici là, qui est magnifique pour ça, de penser des projets où les gens participent. Et c'est vrai à tous les jours. Là, on va mettre, par exemple, un tableau noir. Les gens peuvent écrire des phrases, ce genre de, ce genre de projet. On essaie toujours qu'il y ait dans la bibliothèque donc une activité de ce genre. Puis ça, ça amène les gens à la bibliothèque. Ouais. Et les gens restent, participent à ces projets-là. Puis finalement s'y assoient, puis vont passer un moment. Donc de plus en plus depuis, depuis une année, les gens reviennent à la bibliothèque.
Ouais. Ouais. Puis moi je dirais aussi que on a nos réguliers, avec nos clients réguliers qui sont là depuis des années. Et je sens que chez les clients réguliers, on a un rôle précis à jouer. Oui. Je le sens, je le vois chez les gens qui sont seuls aussi. Je vois toutes sortes de clientèles, mais je le vois vraiment qu'on a vraiment un rôle important à jouer dans la communauté ici.
Selon vous, c'est quoi ce rôle-là que vous jouez pour les gens du quartier ici?
Moi, j'ai l'impression qu'ils sont en train tranquillement de se l'approprier, la bibliothèque. Chacun à leur façon, tout dépendant de chaque clientèle. Mais je crois qu'on fait partie de leur, on fait partie de leur vie.
Ouais.
Moi, c'est l'impression que j'ai. Puis comme ça fait longtemps que je travaille ici, j'ai l'impression que tout le travail qui s'est fait dans les dernières années, j'ai l'impression que maintenant, la bibliothèque appartient plus aux gens.
Ouais.
Peut-être à cause de tout le travail qu'Hélène a fait, d'aller chercher les gens, les différents types de clientèle.
Ouais.
J'ai vraiment l'impression que...
Ça fait plaisir que tu dises ça, parce qu'on travaille vraiment fort en ce sens-là.
Là, vous parlez de Hélène Diodé, votre
collègue. Oui, Hélène Diodé, oui.
Donc, il y a Hélène qui travaille.
Ça, plus toutes les programmations, la belle programmation qu'ils font, tout ça ensemble, fait que j'ai l'impression que ça a comme... Il y a eu comme un... Philippe parlait tout à l'heure, un virage. Et j'ai l'impression que les gens se sentent mieux ici.
Alors, mon nom, c'est Diane Bouchard. Je suis dans le quartier depuis 5 ans. Et avant, j'habitais le plateau. Et je suis à Verdun parce que je suis une cycliste et je connais le bord de l'eau, mais pas rien de la ville. Donc, j'arrive ici, je connais personne, mais le fleuve est là et c'est très, très, très réconfortant. Et la première place où je suis venue, mon point d'ancrage, c'est ici, à la bibliothèque. J'étais sûre qu'il y avait des gens qui sont là juste pour te dire bonjour. Alors, ça a commencé comme ça. Et je suis restée vraiment, mais j'aime beaucoup les bibliothèques, là. Je veux dire, mon premier point d'ancrage, là, ça a vraiment été ici. Je suis arrivée en vélo, première journée, je suis rentrée à la bibliothèque. Bon, premièrement, le Wi-Fi est gratuit. Et ça a commencé comme ça. Et puis après, ben, ça a déboulé et voilà.
Et qu'est-ce que vous vous êtes dit sur la bibliothèque quand vous l'avez vue pour la première fois?
La première chose que j'ai trouvée, c'est la différente personnalité des employés. Certains travaillaient, d'autres bonjour. C'était très, très varié. D'autres marchaient vite. Donc, j'avais l'impression que je pouvais être ici avec n'importe qui. Il y avait comme une appartenance généreuse. Si je voulais un matin, je n'étais pas de bonne humeur ou je venais à la bibliothèque, bon. Mais toute la variété, chaque personnalité d'employé était pour moi un point où, OK, c'est une mini-société, c'est ouvert, bien, je vais être bien ici. Puis je suis devenue vraiment une habituée. Mais je l'étais avant, mais là plus encore. Et je vois tous les projets en même temps qui font des petites affaires de rien. Non. Les suggestions de livres qui suivent les thèmes, comme beaucoup de bibliothèques, là. Mais tout ça, et chaque bibliothécaire, si je demande une... tu sais, genre, j'ai plus d'inspiration, ce qui est le fun, c'est que c'est jamais pareil. Personne me... vont dire, moi, j'ai lu ça. Une autre personne, c'est sa personnalité qui me donne. Alors, ça me permet de découvrir toutes sortes de lectures que je n'aurais pas choisies. Et ça, c'est encore plus intéressant.
On pourrait trouver d'autres affaires à dire sur Verdun-Land, parce qu'il y a encore des choses qui se passent à Verdun-Land. Mais
Est-ce que c'est dans les projets?
Ça fait longtemps qu'on en discute. Là, on avait d'autres projets respectifs. Mais peut-être éventuellement...
Oui,
c'est que là, on n'habitait plus à Verdun, mais là, genre, déménage. Fait que là, peut-être que ça va...
Ouais, puis c'est toute cette idée du retour, tu sais, revenir à un endroit où tu as déjà vécu, puis tu dis, toutes mes balises sont là, mais elles sont pas là. Le gars du dépanneur a changé de coupe de cheveux, c'est bizarre, tu sais. Fait que Fait que, ouais.
On avait aussi l'idée que le Verdolaine était devenu submergé par les touristes, puis là, c'était plus...
Oui, à cause du livre.
À cause du livre, il y avait une sorte de piste. C'est fracassant, puis là, tout le monde...
Puis là, moi, je disais, ah non, c'est trop comme un roman, je suis pas sûr, vraiment comme... Fait que là, c'est ça. Mais c'est ça, écrire à deux, hein?
C'est ça.
On a chacun notre façon de travailler, notre façon d'aborder la poésie aussi, tu sais.
Il est temps de dénouer les confusions, parce qu'on nous achale souvent avec ça, on nous pose toujours ces questions-là. Verdunland et Verdun sont deux endroits magiques,
on le dit sincèrement, mais ce sont deux endroits fort différents. Pas tout à fait l'un par-dessus l'autre, ni côte à côte, si à moi de parents divers, Verdunland et Verdun, Verdun et Verdun existent au même parking spot.
Cohabitent le spatio-temporel et la frontière entre les deux est mince, mince, mince. Des fois, le toit coule à Verdun et dégoûte à Verdolaine.
Des fois, tu peux te faire livrer une pizza à Verdolaine et la voir arriver à Verdun.
Des fois, tu peux jouer au tennis et perdre la balle de l'autre bord, laisser tes clés sur la table à Verdunland et rester embarré dehors à Verdun. C'est fuligineux, on le sait, mais au fond, tout est une question de volonté.
Par exemple, nos voisins habitent à Verdun, mais n'habitent pas à Verdunland.
Refusent tout ce qu'il y a à voir de près ou de loin avec Verdunland. Refuse avec colère, refuse avec une violence telle que nos murs en shake, que notre plancher écroche,
leur complot chuchoté sur le balcon nous réveille la nuit. C'est plate à dire, mais nos voisins conspuent quand ils fomentent pas de détruire à tout jamais Verdunland.
La frontière est ébranlée et on s'enfuit et s'enfouit et s'évade et s'envase de la songerie jusqu'à ne plus savoir de quel côté on beurre nos toasts.
Écoutez la troisième saison d'Histoire de quartier. Vous pouvez emprunter ou réserver le recueil Verdunland de Baron Marc-André Lévesque et Timothée William Lapointe, ainsi que leurs suggestions de lecture dans les bibliothèques de Montréal. Je suis Sarah Osama, bibliothécaire et animatrice de la série Histoire de quartier. Merci à Baron Marc-André Lévesque et Timothée William Lapointe pour le bel après-midi passé en leur compagnie. À Marie et Philippe de l'équipe de la bibliothèque Jacqueline de Repentigny pour leur accueil chaleureux, et à Diane Bouchard, fidèle usagère, pour l'expression de son amour pour la bibliothèque.